18h30, merci d'écouter Divergence FM. Vincent Cavaroc vient d'arriver dans les studios. C'est une nouvelle édition de Mardi Blabla. C'est tout de suite et c'est sur le 93.9 de Divergence.
Entrez.
Un conseil, madame. Un conseil, monsieur.
Le mardi.
Mangez. Mangez sain. Mangez frais. Mangez...
de la culture.
Car il faut manger, manger, manger les mardis. Avant que ce soit les radis qui nous mangent. Il faut manger, manger, manger les mardis. Et des tas de laitues et des tonnes de pissenlits.
Ne vous découragez pas, ne vous impatientez pas. Bientôt vous serez amené à la salle d'accouchement où votre médecin vous attend.
Zoubi zoubi zou. Zoubi zoubi zou. Zou bisou, zou bisou, zou bisou, le bruit des bisous.
Mardi.
Blablabla. Bla 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 bla.
Très chères auditrices, très chers auditeurs, nous voilà en direct du 93.9 de Divergence, en direct et en plateau, avec plein d'invités. C'est Mardi Blabla. Une fois par mois, on se retrouve en plateau, comme ça, pour débriefer de l'actu culturel montpelliéraine et hors des frontières de Montpellier. Aujourd'hui, un riche programme. On va commencer avec une manifestation dont on est partenaire à Divergence. C'est l'Agora des Savoirs. On a une affection toute particulière pour cette manifestation. Et nous avons Michael Delafosse, adjoint à la culture de la ville de Montpellier, Régis Penalva, qui a programmé en grande partie toutes ces soirées, ces conférences. Donc nous évoquerons en profondeur ce premier cycle, le deuxième cycle, et qui va aller vers un troisième cycle et même une nouvelle année. On évoquera les grands thèmes qui vont comme ça jalonner l'Agora des Savoirs. Ensuite, c'est le Centre d'art contemporain régional de Sérignan. Oui, c'est la nouvelle appellation. Le musée de Sérignan devient, se régionalise. Mais ça ne sera pas tant pour évoquer cet aspect que pour évoquer l'actualité de ce centre d'art, de grandes expositions. Et c'est avec Hélène Audifrin et l'artiste Michael Viala que nous aurons l'occasion d'en discuter. Ensuite, c'est M. Antoine Leclerc, directeur du Festival de cinéma Itinérance à Alès, avec qui on sera au téléphone. À mi-parcours du festival, on fera un petit point sur les grands temps forts qui ont marqué cette nouvelle édition. Et on finira avec une interview de Mitya Fedotenko, Mitya qui est un chorégraphe russe installé à Montpellier depuis belle lurette et qui présente Sans frontières à la Chapelle. C'est ce soir et demain. Mais pour l'heure, je vous propose une première pause musicale. Et cette première pause musicale n'est autre que Revolver, le groupe. Non, ce n'est pas le nom d'un album des Beatles, c'est bien un groupe. L'album, c'est Music for a While, et on les retrouve au Rockstore le jeudi 25 mars. Et c'était le groupe Revolver qu'on retrouve au Rockstore très prochainement, c'est le 25 mars. Mon cher Michael de la Fosse, le Rockstore, un lieu que la ville affectionne aussi tout particulièrement.
Tout à fait, puisqu'on l'a racheté et pendant quelques temps, le Rockstore va fermer ses portes. On ne sait pas encore exactement quand, mais on va faire des travaux importants pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, pour la mise en sécurité du lieu et puis pour travailler son acoustique. Et on fait confiance à Stéphane et Fifi pour nous faire une programmation à la hauteur de l'âme du lieu. J'en profite pour dire que nous allons aussi aider le Jam pour pouvoir faire des travaux et donc bien soutenir nos salles de concert, nos lieux de diffusion pour nos artistes et pour notre plus grand bonheur pour la musique, parce que je crois qu'au moment où on veut pénaliser les internautes qui téléchargent, moi je crois qu'il faut créer des lieux de rencontre entre la scène et le public. Et c'est pour ça que la municipalité de Montpellier soutient activement les salles de concert.
Les noctambules montpelliérains soutiennent forcément cette démarche, surtout quand il s'agit du Rockstore. Aujourd'hui, on ne parle pas exactement du Rockstore, on parle d'un rapport L'Agora des Savoirs, une manifestation phare. Là, juste à froid comme ça, on ne pouvait pas imaginer, il y a encore un an, que cette manifestation aurait un tel succès.
Écoutez, d'abord, qu'est-ce que c'est ? L'Agora des Savoirs, c'est l'idée que dans le cadre de la politique culturelle de la ville, il doit y avoir la danse, où nous excellons, la musique classique, où nous excellons, les musiques actuelles, il doit y avoir la poésie, il doit y avoir le théâtre, mais aussi une place pour la pensée, pour la rencontre entre les grands chercheurs de notre temps et le public. Et effectivement, le pari qui était le nôtre était de dire tous les mercredis soirs, dans une programmation exigeante, il faut donner un rendez-vous. Et alors au début, on avait cette phrase, cher Vincent, à la conférence de presse, j'avais déclaré, il y aura 200 personnes et on formera un public. Et à notre grande surprise, le premier soir, il y a eu 900 personnes. Et puis le deuxième soir, 900 personnes, les gens assis par terre, etc. Y compris au point où c'est désagréable parce qu'on n'accueille pas le public dans de bonnes conditions. Et donc un vrai succès avec cette idée qu'il faut organiser un point de rencontre entre des grands savants et le public montpellier. Un succès qu'on doit, et je suis très heureux qu'il soit sur le plateau, à Régis Penalva, qui est un libraire, mais qui a accepté pour la ville de Montpellier de mener la programmation et donc d'essayer de définir ça. Et Régis, je le dis parce qu'il est pudique, mais est un jeune homme qui agit dans notre ville culturellement. Les philosophes le connaissent bien à travers la Fabrique de Philo. Il accueille régulièrement des personnalités dans le cadre de ce RAMS. Et il me semblait important que si nous devions choisir quelqu'un qui assure la programmation d'une manifestation culturelle de la ville, eh bien on puisse choisir quelqu'un qui ait plus ses preuves à faire que qui a accompli ses preuves. On aurait pu aller choisir quelqu'un à Paris pour faire ça. Et on a fait le choix d'un jeune homme. Et je crois qu'en tant que programmateur, aujourd'hui, ceux qui fréquentent l'Agora des Savoirs mesurent la qualité de cette programmation.
Régis, tu t'étais rompu à ce jeu de programmer, j'imagine, des rencontres dans le cadre de ta mission, ta fonction à Sorams. Oui. Là, en l'occurrence, il y a un enjeu quand même qui est assez différent. Et la régularité, cette hebdomadarisation, je ne sais pas si on le dit exactement comme ça, de cet événement a dû créer une sacrée pression.
Ce qui est très excitant dans le projet, effectivement, c'est d'abord le caractère hebdomadaire des rencontres. Effectivement, la librairie ou les autres acteurs culturels, on monte une rencontre par mois, deux à la rigueur. Là, on a plusieurs contraintes. D'abord, une fois par semaine. Ensuite, dans un cycle qui est organisé avec un véritable récit. Cette année, la première année, nous avons choisi celui des origines. Donc, il y a une articulation en trois parties. Il fallait donc arriver à jouer avec ces contraintes-là. Il fallait faire venir des gens qui souvent ont des calendriers, des agendas extrêmement compliqués à gérer. Des gens qui ont l'habitude d'aller à Rio de Janeiro, à Tokyo... ou en France un peu partout, et il fallait aussi jouer avec cela. Et puis, autre idée et autre contrainte, faire participer à cela le vivier que nous avons ici, puisque nous avons des milliers de chercheurs, 1 000 000 de chercheurs en sciences humaines et sociales à Montpellier, mais il y a aussi évidemment tous les scientifiques, médecins, juristes, qui nous ont accompagnés dans cette aventure par le biais à travers un comité scientifique que la ville a organisé, a convoqué, a monté. Et puis aussi à travers soit des invités. Nous avons 6 Montpelliérains qui donnent des conférences cette année. et aussi par le biais d'intervenants locaux, des gens qui sont là, qui sont eux-mêmes des spécialistes de la discipline représentée et qui viennent présenter l'invité.
Est-ce qu'au sein justement du comité scientifique qui a été comme ça mis en place, il n'y a pas eu des formes de guerre de chapelle? Parce que j'imagine qu'à cet endroit-là, entre les chercheurs universitaires, les labos de recherche, il doit y avoir comme ça des quelques chapelles. Il a fallu accorder le violon de tous ces gens.
On est déjà très content parce que les trois universités, Montpellier 1, Montpellier 2, Montpellier 3, sont représentées à peu près à part égale. Il y a une vingtaine de disciplines qui vont de la cosmologie et de l'astrophysique jusqu'aux sciences politiques, en passant par les sciences sociales et les arts. Et bon, évidemment, il y a parfois des petites discussions sur doit-on faire un peu plus de sciences dures et un peu plus de sciences sociales et humaines. Les humanités contre les sciences dures, bon, c'est une vieille querelle, mais ça reste plus du registre du jeu et de la compétition amicale. Ça a été plutôt très facile à gérer.
Alors, dans cette première année, dont la thématique était interroger les origines, un premier pas vers la compréhension d'un monde incertain, il y a eu un premier cycle autour de l'univers, la Terre, le vivant, un second cycle qui était focalisé sur l'homme, la société, la culture. Et le troisième qui va bientôt débuter, oui. Sur qu'est-ce que c'est la modernité. Alors c'est vrai que derrière cette question de la modernité, on peut l'entendre sous des angles très très différents, la modernité à un art, la modernité. Là, quels angles vont être choisis justement pour aborder cette modernité?
Alors bon, l'idée effectivement c'était d'abord de partir d'un lieu commun. On ne cesse de rabâcher qu'on sort de cette modernité, on passe à autre chose. Alors faut-il l'appeler post-modernité ou
est-ce qu'on n'est pas déjà sorti de la post-modernité?
Voilà.
Aussi.
Mais justement, pour se demander où l'on va et de quoi on est en train de sortir, encore faudrait-il, oui, exactement, savoir comment ce dont on est en train de sortir s'est constitué. Quels sont ses fondements? Quel est son imaginaire? Quelles sont ses grandes institutions? Donc, effectivement, à travers une petite dizaine de conférences, on a essayé de se demander ce qu'était la modernité. Alors, la modernité en art, effectivement, il y a une conférence de Jean-Marie Schaeffer, qui est sans doute un des meilleurs spécialistes aujourd'hui de l'esthétique en France, qui enseigne à l'école des hautes études en sciences sociales et qui viendra nous parler de l'art. Il y a aussi la politique moderne, hein, naissance de la politique moderne, comme elle se constitue au 15e, 16e siècle, puis ensuite jusqu'au 18e, à travers les figures de Machiavel, Hobbes et Rousseau. Pour cela, on a un très très bon vulgarisateur et grand professeur, Pierre Manant, qui a beaucoup travaillé sur ces notions de naissance de la politique et qui viendra. On a aussi les questions urbaines seront traitées, parce que s'il y a bien quelque chose qui est constitutif aussi et qui fut le cadre légitime de notre modernité, c'est la ville. Et l'historien et sociologue des villes, Paul Blancard, qui est d'ailleurs un personnage à venir écouter parce que assez fantasque et détonnant, viendra nous entretenir de la ville.
Alors, Divergence FM, vous êtes passant le savoir, chers auditeurs, a été partenaire et est partenaire de cette opération. Tous les mercredis, vous retrouvez en direct les captations des conférences. Nous, on a tenu à s'associer à cette opération. Il y a d'autres partenaires autour de cette manifestation. Michael, justement, pour revenir sur ces partenariats, quel a été l'intérêt de tisser tous ces partenariats?
Ce qui est important dans cette orientation que nous avons voulu donner, c'est d'avoir la gratuité du dispositif. Parce que la science, c'est un bien public et qu'on doit le partager. Et donc, on peut le partager à travers une rencontre qui a lieu à Rabelais. Et il suffit d'apprécier cette esthétique quand on se met sur un banc de l'esplanade. Et à partir de 19h, une file de moins en moins discontinue d'ici à 20h30 se veut assister à la conférence. Mais il nous semblait très important, à partir du moment où nous disions c'est hebdomadaire, que si on a une charge de famille, si on a un empêchement, si on ne peut pas être là, eh bien on puisse suivre en direct la manifestation. D'où le partenariat avec Divergence, et je remercie vraiment la radio d'avoir accepté. Il faut dire qu'il y a une philosophie qui se retrouve. La manifestation est gratuite parce qu'il y a l'idée que la science est un bien commun. Ici, on est sur une radio qui utilise des logiciels libres. Et donc, il y avait cette espèce d'esprit un petit peu... On ne privatise pas le savoir, on le partage. Et puis, d'autres partenaires, la librairie Soramps, parce que si la manifestation est gratuite, il y a un vœu caché pour l'adjoint à la culture que je suis, c'est que ça aide à remplir les bibliothèques. Mmh. Et comme cadeau, on puisse offrir un livre parce que tous les auteurs, tous les conférenciers qui viennent sont aussi, pardon, des auteurs. Donc ce RAMPS, la Maison des sciences de l'homme, qui procède à des captations, elle, vidéo, c'est-à-dire qu'on peut assister à la conférence aussi en vidéo. Et ça, ça a un intérêt parce que des gens très loin d'ici, eh bien, observent ce qui se fait et se dit et se raconte à Montpellier. Et donc, on a autant d'auditeurs vidéo que de gens présents à chaque fois. Donc, je crois que ça, c'est très important. Et enfin, le média Direct Montpellier Plus, qui, chaque semaine, fait une page sur la conférence. Et donc, les gens ne viennent pas forcément, mais quand même, lisent ce que le conférencier va faire et donc contribuent à la diffusion des savoirs. Et je crois qu'avec l'ensemble de ce dispositif, eh ben, on pense au public. On pense au public qui ne peut pas forcément venir. On pense au public pour le faire venir. Et donc, on essaye de tirer les gens vers cette confrontation avec la pensée et de manière un peu décomplexée, parce qu'il n'y a pas de complexe à vouloir apprendre à n'importe quel âge de la vie. Voilà l'idée. Et grâce à vos ondes, on y parvient.
Finalement, au-delà des 900 personnes qui viennent assister physiquement toutes les semaines au dispositif, on imagine que là, ça draine un sacré nombre d'internautes, d'auditeurs.
Exactement. C'est-à-dire qu'autour de cette rencontre, des 900 personnes, alors 900 c'est la pointe, mais les 600 réguliers, eh bien effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont informés d'une pensée contemporaine comme celle de Pascal Pic ou de Pascal Tassi, qui nous a fait une conférence d'1h15 sur la molaire du Kentucky en tenant en haleine le public et disant, ben voilà, c'est à partir de là que la paléontologie a été découverte, cette science qui nous permet de comprendre notre évolution. Voilà. Et je crois qu'une ville comme Montpellier, qui est une ville de culture, qui est une ville d'art, doit aussi être une ville qui fait place à la pensée et qui ne vise pas à réduire le temps de pensée disponible dans le cerveau, mais au contraire à susciter toujours davantage de questionnements.
On parlait de la molaire du Kentucky, juste avant justement de revenir sur les temps forts de cette saison qui vient de passer, et aussi des nouveautés, des temps forts qui jalonneront la saison prochaine, parce qu'une prochaine année est en préparation. Je vous propose d'écouter un morceau, c'est Hocus Pocus, Beautiful Loser, c'est avec Alice Russell sur ce morceau, et ce groupe Hocus Pocus sera la victoire de le jeudi 1er avril.
Au geyser de manteau, c'est Coca Light de canal en canal. Dylan, Ayusu, Fofana, d'Obama, à la brasse de l'Ohana, de Nana et leur. Pourquoi je mate ça? Ça m'avance pas, ça va de soi. Daft Punk sur les 10 doigts, Miss Samantha, le Peura et les Français FA. Une blondinette en coupé décalé, Guada, un ninja. Coupable Fro joue du Nunchaku. Les photos d'autopsie de Tupac, chaque jour. Je passe du morbide au futile. Me perds dans un détail d'imagine utile. Une gamine en pile, des gobelets en pyramide. Je me dis qu'elle est rapide et que mon temps je dilapide. Dans la Tamise, on surfe à la dynamite. L'ami pour avoir son quart d'heure de gloire, comme on dit la vie. We'll be right back.
sponsorisé par Nokia. La souffrance d'un état dans le regard de Neda. Pardonnez-moi si je ne m'attarde pas, mais je préfère l'hélicoptère façon Kamasutra. Amy Soutrak, Britney, la boule à Z, l'or, le boule à l'air, à l'aise comme Paris. T'as vu la scène? J'ai la pupille carrée, les yeux injectés de sang. À force de fixer l'écran dans l'écran, je rentre dans les rangs. Lentement, sans élan, égarant mon temps dans les rangs, plan sur plan. Truqué comme portable et popcorn. Yankee comme portable et hot dog. Ray-Ban et top modèle en pleine crise, chaussée des skis. Bob Cable comme brunette des skis. Peu d'esprit, juste une SB. De la vie, une pâle copie. Une industrie qui balbutie. Une industrie qui balbutie.
Et c'est la chaude voix d'Alice Russell qui est posée sur ce Beautiful Losers d'Ocus Pocus. L'album, c'est 16 pièces et c'est à la Victoire 2 le jeudi 1er avril. Toujours en plateau, mardi, blabla sur Divergence FM 93.9 avec Michael Delafosse et Régis Penalva. Et on parle de l'Agora des Savoirs. Messieurs, quand je regarde un petit peu les thèmes qu'on a pu aborder ces derniers temps en conférence, tous les mercredis, il y a des questions qui paraissent extrêmement générales et quasiment intraitable de façon scientifique. D'où vient le temps, la Terre, l'espace et au-delà? Le sexe évolue-t-il? J'imagine qu'il faut un talent d'orateur et un esprit de synthèse incroyable pour arriver à faire passer à un public assez large et absolument pas spécialisé ce type de concept.
Oui, c'était aussi une des véritables contraintes du projet. Nous tenions à mettre en avant des universitaires, des enseignants-chercheurs venus de France entière, de Montpellier, de Paris essentiellement, mais un petit peu de partout. Mais en même temps, ils doivent être capables jusqu'à la fin de l'année de transmettre un savoir ardu, pointu, auprès d'une assistance de 500, 600, 650 personnes qui n'a pas les bases. Donc il faut en une heure et quart, très rapidement, poser les bases et essayer de donner une idée à ce public-là de la complexité d'un savoir qui est toujours ouvert d'ailleurs, puisque la plupart des questions qui sont abordées ne sont toujours pas réglées par la science.
Parmi justement tous ces thèmes, est-ce que il y a eu des temps un peu magiques comme ça, des moments suspendus en l'air où il y a eu une forme d'interaction absolue entre des intervenants et le public à des endroits où vous vous attendiez pas forcément.
Oh, moi, je raconterai une anecdote, Régis en a plus, mais moi, je suis très impressionné de voir qu'après une heure et demie, parfois, personne ne bouge, les gens restent très attentifs et de voir que quand les questions du public arrivent, il y a des gens, ils s'excusent, ils disent « Bon, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris ou j'ai pas fait ce type d'études ou j'ai pas fait beaucoup d'études. » Mais en gros, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est « Et je voudrais comprendre comment. » Et quand on... Enfin, je vous le dis avec vraiment... Il y a une esthétique à ça. Ça fait plaisir. Parce que c'est la preuve que quand les gens, on leur donne des choses pointues, ils ont envie d'être tirés vers le haut. Ils ont envie de comprendre. Et ça, c'est une forme de pari sur l'intelligence. On aurait pu choisir la forme du one-man show des savants qui s'affrontent comme on en voit tout le temps à la télévision ou dans d'autres manifestations. Et là, dire que on propose de se remettre dans une situation d'apprentissage et qu'effectivement, l'intervenant doit vulgariser au maximum le savoir pour le rendre accessible... C'est intéressant. Et moi, l'anecdote que je voudrais donner, c'est celle-là qui provient du public. C'est une satisfaction pour l'élu qui doit, à la culture, qui doit veiller à ce qu'on puisse accéder à. Mais je trouve que ça, c'est quelque chose de très chouette. Après, des conférenciers, Régis les connaît parce qu'il voit aussi les...
Dans les moments un petit peu majeurs, il y a quand même la venue d'Étienne Klein. Justement, sur ce sujet d'où vient le temps, il est astrophysicien, physicien, mais aussi docteur en philosophie des sciences, donc avec une très forte formation philosophique. Et c'était pour lui un pari. quand on l'a contacté il y a 8 mois, il a dit « Allez, d'où vient le temps ?» Et il n'avait absolument pas la réponse. D'ailleurs, à la fin, il ne l'avait toujours pas. Mais il ne savait absolument pas où il s'aventurait. Et il a, pendant 4 mois, préparé cette conférence en travaillant réellement à cette conférence-là. D'ailleurs, ça s'est senti. Il y avait un propos d'une densité tout à fait exceptionnelle ce soir-là. Donc, Étienne Klein. Et puis, peut-être un deuxième moment, parce qu'Étienne Klein est effectivement une star de la diffusion du savoir. Donc, ce n'était pas une surprise. C'était particulièrement bien, mais que cela soit bien, c'était attendu. En revanche, un jeune enseignant-chercheur comme Rodolphe Tabus, qui est montpelliérain, qui est à Montpellier 2, qui a 38-39 ans, qui revenait de mission en paléoanthropologie, qui est en train justement de produire sa recherche, il est en pleine production de savoir, il est... Voilà. Eh bien, lui, il est arrivé avec ses os, ses bouts de ses bouts de crâne, ses dents. Il a fait une conférence extrêmement intéressante et dense elle aussi. Et à la fin, tout le monde est monté sur la scène pour pouvoir toucher les os qu'il avait ramenés d'Afrique et pour essayer de percer un peu le mystère de ses origines des primates anthropoïdes, comme ils s'appellent.
Avril, mai, juin, un nouveau cycle s'ouvre à nous sous l'égide de Qu'est-ce que la modernité ? Et on va commencer avec l'origine des primates anthropoïde. Alors là, moi, carrément, même le... Ah, peut-être que non. Ah non, non. Ah, ça, c'est... J'ai fait une erreur dans mon programme. Avec la naissance de la politique moderne. Je trouvais ça assez étrange. La naissance de la politique moderne avec Pierre Manant. Qu'est-ce que vous pouvez en dire, là, comme ça, à froid ?
Bah, la politique moderne, c'est le 15e, 16e, 17e, jusqu'au 18e siècle. C'est d'abord des grands penseurs. Machiavel, sur lequel on raconte à peu près tout et n'importe quoi. Hobbes, on connaît uniquement parce qu'il l'a dit, l'homme est un loup pour l'homme, bon, enfin, qu'il l'a repris et théorisé, mais voilà. Et puis Rousseau. Et bien, Pierre Manant va nous expliquer comment on sort d'une période qui est la période du pouvoir théologico-politique avec pouvoir religieux fort et comment progressivement le politique arrive à s'autonomiser de cette tutelle religieuse théologique. Voilà.
Et là, je fais un clin d'œil à mon ami et collègue, mon cher François Barrès, qui vient de nous rejoindre, qui avait un petit retard. Et c'est pas en ta qualité de co-animateur de mardi, mais plutôt de docteur en sciences politiques là, que je peux m'adresser.
Tu veux que je te dise quoi ? Quelques mots sur Pierre Manant, c'est un bon vulgarisateur, comme beaucoup dans cette école-là de l'école des hautes études en sciences sociales. Hein. Puis c'est une matière qui a été beaucoup travaillée, ça, le début de la politique. En France, particulièrement, il y a tout un tas d'intellectuels qui sont très très forts là-dessus et qu'effectivement on n'entend pas assez. Moi, je trouve que c'est un sacré pari, l'Agora, les savoirs. D'abord, c'est un pari de trouver autant de scientifiques capables de vulgariser. C'est pas facile de vulgariser la science. Hein. Moi qui en ai fait mon métier pendant des années et qui maintenant ne fait plus que ça, vulgariser la connaissance scientifique, c'est quand même un boulot énorme de simplification qu'on n'a jamais vraiment envie de faire. Et trouver des gens qui ont envie de parler devant un public néophyte, alors que ce n'est pas forcément des intellectuels qui sont habitués à l'université de tous les savoirs ou de tous les âges, ou enfin tous ces dispositifs qu'on peut trouver où là il faut parler différemment que quand on a des élèves de Master 2 devant soi, c'est sûr. C'est pas évident et en même temps c'est un vrai challenge. Et plus ça se développera et plus on arrivera à diffuser comme ça de la connaissance au sein du corps social, comme disait Hobbes. Et ça sera pas mal, quoi. Ça sera pas mal parce que c'est ce qui nous manque dans ces périodes où des fois on doute un peu de la démocratie et de la République et tout ça.
On va conclure en juin avec un homme qui est un grand spécialiste aussi, qui vient pas de l'université, qui s'est aussi vulgarisé par moments, qui est très très intéressé sur les questions médiatiques ou industrielles et artistiques également. C'est Bernard Stiegler. J'imagine il y a une forme de point d'honneur à avoir un point final comme ça cette première année avec Bernard Stiegler.
Effectivement, il fallait, je l'avais dit à Régis, il faut que celui qui ouvre et celui qui conclut fasse sens. Et Régis a proposé deux personnalités qui aiment vulgariser. Jean-Claude Guilbeault, qui n'est pas universitaire, mais qui est connu pour écrire dans la presse grand public. Et Bernard Stiegler, dont l'histoire est absolument incroyable, puisqu'à 20 ans, il était derrière les barreaux parce qu'il avait braqué une banque et c'est en prison qui s'est mis à découvrir la philosophie, à écrire, enfin lire, à écrire et à penser notre monde. Et je trouve que ces deux personnages-là sont emblématiques, sans doute Bernard Stiegler peut-être plus, de l'ambition de ce projet. C'est qu'au fond, tout le monde peut, à un moment, s'il le souhaite, penser, acquérir et entrer dans la sphère politique avec une connaissance, dans la sphère intellectuelle. Et donc c'était un petit peu ce choix. Et au fond, c'est juste tenir une promesse qui est celle des révolutionnaires de 1789 et d'un Montpelliérain qui, lui, au tournant du 19e siècle, début 20e, Auguste Comte, parlait de ces sujets-là. Il faut éduquer en permanence, il faut faire partager le savoir. Et donc ces deux personnages-là, Guibaud et Stiegler encore plus, je le dis, sont emblématiques et je crois que nous aurons une très très grande rencontre avec l'intelligence avec Bernard Stiegler.
La semaine dernière avait lieu une conférence de presse qui visait à annoncer un petit peu le futur, parce que effectivement il y a un futur à cette manifestation, une manifestation qui pour une première année marche autant, on imagine bien qu'on a envie de mettre les bouchées doubles pour en faire quelque chose d'exceptionnel.
Disons qu'on est au début d'un nouveau champ de la politique culturelle de la ville de Montpellier qui, je l'espère, survivra au mandat des élus qui l'ont impulsé. Tout comme la danse, tout comme le festival de Radio France, comme des choses qui se créent. Parce qu'on voit bien que là, il y a un écho à tout point de vue. Et François a montré ici peut-être l'attente sociale ou en tout cas l'enjeu démocratique qu'il y avait derrière tout ça. Et donc l'idée, c'est de travailler à des nouveaux dispositifs. Il y aura une saison 2 de l'Agora des Savoirs. Régis vous en parlera un petit peu. On va organiser un événement de portée européenne, les controverses de Montpellier, parce que la science n'est pas figée. Elle est en discussion permanente dans les colloques, où là, les affrontements sont feutrés, mais les affrontements sont réels. Je vais prendre quelques exemples de grandes controverses. Alors évidemment, la plus simple, c'est celle sur le climat. Le climat change-t-il à cause de l'action des hommes ou ne change-t-il à cause de l'action du rayon du soleil ou etc. C'est des controverses. Et donc montrer que la science, elle est en mouvement. On peut prendre l'origine de l'extinction des dinosaures. On peut prendre l'origine de la diffusion du savoir des Grecs avec Sylvain Guggenheim, par exemple, Aristote au Mont-Saint-Michel, etc., etc. Et donc organiser ces controverses à Montpellier. Premier aspect du dispositif. Deuxième saison de l'Agora des Savoirs. Une Agora des Savoirs junior à destination des jeunes publics, et en particulier en lien avec les professeurs pour qu'ils puissent accomplir leur mission de transmission des savoirs. Et donc une programmation à destination du jeune public. Et puis une idée à laquelle je suis sûr que cette émission sera ravie d'entendre cela. Une Agora des Savoirs. Il y aura le mercredi soir le rendez-vous habituel, le cycle central, mais ensuite on va travailler sur sur une thématique. Et on va aller explorer l'art. Parce qu'il y a des gens qui pensent et qui analysent l'art et qui pourraient en parler. Et vous savez que nous sommes en train, à la ville de Montpellier, de réaliser un très bel équipement culturel, la Panacée. Et en modifiant le programme architectural, la première chose que j'ai faite, c'est l'auditorium, il doit passer de 150 à 200 places. Et là, tous les jeudis soirs, ou les mardis soirs, on va voir ça, à partir de janvier 2011.
Ça serait bien le mardi après 20h, parce que nous, on a un petit rendez-vous radiophonique.
Il ne faudrait pas qu'on se mette en concurrence avec cette excellente émission de radio. Il y a une programmation autour de l'art.
Vous perdriez énormément de public, en fait.
Oui, ou si on arrive à être complémentaire, on alimenterait. C'est ça le but aussi. Non, et où, par exemple, on pourrait répondre à des questions. Au fond, qu'est-ce qu'a incarné Picasso, qui était ce Beethoven, etc. Et donc de vulgariser, où on pourrait travailler sur qu'est-ce que l'art contemporain. Voilà, ça pourrait être des thèmes de conférences. Mais là, moi, je quitte mon rôle. C'est pas à moi de programmer ou de donner. Moi, c'est de dire, là, il y a aussi besoin de partager le savoir. Et puis si cette thématique marche, l'année d'après, on pourrait en trouver une seconde, et puis etc. Et donc, faire déployer cette politique publique qui vise à faire de Montpellier une capitale des arts, de la culture, de la pensée. Ici, c'est ça l'enjeu, c'est ce rang-là que nous avons vocation à tenir.
Régis, je te laisse le mot de la fin, justement, sur l'évocation de cette année à venir.
Alors, une année qui est en préparation, puisque le comité scientifique et moi-même travaillons dessus un petit peu tous les jours. Nous essaierons d'interroger l'année prochaine les idéaux, les grands principes, les normes, les valeurs qui structurent tant les sciences et les savoirs qu'elle n'agite nos sociétés. Et alors évidemment, ça peut paraître un petit peu flou comme cela, mais je vais vous donner un exemple très précis puisqu'on a eu une réponse positive il y a quelques heures. On aura l'honneur de recevoir en mois de février, je crois le 9, il me semble, si c'est bien un mercredi, en tout cas dans cette semaine-là, Françoise Héritier. Mmh. Françoise Héritier qui ne se déplace quasiment plus pour rien, puisqu'elle a des problèmes de santé, qui a accepté d'abord par, il faut le dire aussi, amitié pour Soramps et pour Montpellier, qui l'a toujours bien reçu, de venir. Et elle traitera la question du droit des femmes. Du droit des femmes, qu'est-ce qu'il devient au contact de l'infinie diversité des cultures? Voilà, donc, et il y aura évidemment donc toutes les questions de rencontre avec l'autre, de relativité ou universalité des valeurs et des principes. Tout cela sera interrogé l'année prochaine.
Michael Dehaffos, Régis Penalva, merci beaucoup. On retrouve l'Agora des Savoirs sur les ondes de Divergence FM dès mercredi prochain et tous les mercredis jusqu'en juin. On fait une pause musicale avant de retrouver Hélène Audifrin et Michael Viala pour le Centre d'art régional de Sérignan. C'est Kim. L'album, c'est Marie Lidou. Il passe au Baloir le mercredi 31 mars. Première partie, Corleone, un groupe de rock de Toulouse. Et c'était Kim, un groupe qu'on connaît encore trop peu. L'album, c'est Marie Lidou. Ils sont au Baloir, c'est le 31 mars. Vous l'aurez compris, toutes les pauses musicales sont en lien avec des actualités musicales que vous pouvez voir dans la région en ce moment. Le Rockstore, le Baloir, la Victoire 2. Bon, le réseau n'est pas extensible. Mais voilà, et là, on se retrouve en plateau et en direct sur le 93.9 de Divergence FM avec Hélène Audifrin, directrice du Centre d'art...
Je me permets une modification du musée régional d'art contemporain Languedoc-Roussillon.
C'est ce centre. Je me disais, est-ce que c'est labellisé centre d'art? Mais non, c'est un musée quand même, musée d'art.
C'est un musée. Ouais. Le centre régional se situe
c'est le
track.
À 7. C'est le A7, exactement. Il faudra que tu parles bien directement dans le micro. Et Michael Viala, Michael, artiste qu'on connaît bien à Montpellier.
Bonjour.
Salut, Michael, artiste, aussi enseignant aux Beaux-Arts.
Oui, tout à fait. Ouais.
Exactement. Et là, on te retrouve dans une exposition architecture en ligne qui sera du 14 février au 6 juin à Sérignan. Mm-hmm. Ce n'est pas la seule exposition qui est dans l'espace en ce moment. Il y a aussi les Cocktails Designers, un collectif de designers lyonnais qui occupe l'espace. Comment justement il y a eu cette volonté de...
Alors c'est tout simplement que le musée est devenu régional depuis le 1er janvier 2010. Et pour l'occasion, un espace supplémentaire de 500 m² a été ajouté. Ce qui fait que le musée aujourd'hui de Sérignan se développe sur une superficie de 2500 m² et nous présentons à la fois une collection et des expositions temporaires. Donc il y a un espace au rez-de-chaussée où nous avons invité le collectif Cocktail Designer, qui est un collectif qui regroupe trois artistes, architectes, designers, graphistes. Ils ont des fonctions très différentes et leur principe, c'est la collaboration. Et à l'étage, on présente cette exposition qui s'appelle « Architecture en ligne », qui parle des questions de l'architecture et du dessin. C'est le deuxième volet d'une exposition que nous avons réalisée l'an dernier, qui s'appelait « Comic Strip », sur les relations entre la bande dessinée et le dessin, et là, le dessin et l'architecture.
Alors, comment vous faites dans ces cas-là ? Parce que le... Bon, pour aller vite, je vais dire le musée de Sérignan. Non, je sais qu'il ne faudrait pas si on peut le dire quand même comme ça. Vous allez, je sais qu'il y a quand même une collection permanente assez importante, un fonds permanent important. Est-ce que la tentation est d'aller puiser au sein de ce fonds et de retisser des grands axes, des grandes thématiques, ou systématiquement quand même d'aller dans un rapport prospectif vers d'autres œuvres ?
Alors l'idée, c'est clairement d'aller dans un rapport prospectif pour pouvoir justement enrichir cette collection et y faire entrer de nouveaux artistes. Par contre, évidemment, les expositions sont en cohérence aussi avec cette collection, puisqu'il y a un cabinet d'art graphique, une sorte de petit musée dans le musée qui présente des œuvres sur papier. Et pour faire résonner les œuvres de cette collection présentée dans ce cabinet d'art graphique, on développe une fois par an une exposition sur la question du dessin. Voilà, et sous diverses thématiques. Et là, la proposition, c'était le dessin et l'architecture, en invitant 15 artistes qui ont un rapport très différent à l'architecture, puisqu'il y a à la fois des artistes qui se réfèrent directement à l'architecture, comme Yves Bélorger, qui va travailler sur les grands ensembles modernistes et nous montrer des grands immeubles de manière très frontale, dans un rapport réaliste à l'architecture. Et puis, des artistes qui vont plutôt évoquer des architectures mentales, comme Berderger et Péju, qui présentent par exemple une série de maquettes qui s'appellent les psycho-architectures, qui sont des dessins transformés en volume à partir du test que l'on fait en psychologie, le fameux test de la maison. Non, pas le Rorschach. Le test de la maison, où on demande souvent d'ailleurs aux enfants de dessiner une maison et on interprète, on dit que dans le rêve, la maison serait une reproduction de la psyché. Voilà. Et puis, il y a des artistes qui, eux, ont un rapport direct à l'architecture du lieu. Et nous avons invité une artiste qui s'appelle Marie-Jeanne Hoffner à faire une intervention directement dans le lieu. Elle a tendu une immense bâche plastique qui traverse l'espace et qu'elle nous invite à traverser, sur lequel elle a dessiné un report de l'architecture du musée lui-même. Et puis, de la même manière, nous avons invité Michael Viala à faire une intervention aussi dans l'architecture du musée, puisque je crois que le travail de Michael, de façon centrale, c'est la question du rapport au lieu et à l'espace du lieu.
Michael, tu étais déjà présent il y a quelque temps. On avait fait un sujet, nous, ici, sur le salon du dessin à Montpellier. Oui. Je crois que c'est la galerie Vasistas qui peut représenter. Aujourd'hui, sur ce rapport à l'architecture, effectivement, on voit des liens assez directs. Toi, comment tu le modélises, ce rapport entre ta pratique et ce lien à l'architecture ?
Ce lien, en fait, il vient d'abord de la pratique du skate. Voilà. Donc, une pratique qui se fait dans l'espace urbain, en fait, voilà. Et après, j'ai commencé à faire des volumes, en fait, qui étaient praticables en skate. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à m'intéresser aux endroits où je mettais, en fait, ces sculptures. Et après, j'ai commencé à travailler par rapport aux données physiques des lieux dans lesquels j'exposais.
C'est incroyable, parce que j'ai l'impression que le skate mène absolument à tout. À la musique et pas qu'à l'univers du hip-hop, il y a l'univers du rock. Enfin, c'est ça. Même en musique, ça balaye un spectre hyper large.
Tout à fait.
Les vidéos et films de skate ont amené même des innovations en termes de façon de filmer et même de technologie assez incroyable. En littérature, il y a finalement pas mal de gens qu'on peut assimiler à tout ça. Comment ça se fait que le skate, au-delà d'une pratique, devienne une philosophie de vie ?
Je sais pas, je crois que c'est quelque chose qui s'ouvre sur le monde, en fait, qu'on pratique dans un espace, enfin, l'espace urbain, et où il y a beaucoup de gens différents qui se croisent, beaucoup de gens qui viennent de milieux différents, de cultures différentes, donc il y a tout un brassage qui produit ça, en fait, il me semble.
Voilà. Justement, là, l'intervention que tu as fait dans le cadre de cette exposition, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Oui, tout à fait. C'est donc ce que j'ai fait, c'est des lignes tracées au sol, des lignes droites, tracées avec de l'adhésif de marquage industriel rouge de 5 cm de large. Donc ce sont des lignes qui traversent des espaces, qui se croisent et qui propose une circulation dans le musée. Voilà. Qui propose, mais qui impose pas. Qui propose une circulation possible dans le musée et une circulation dans les différents lieux d'exposition. Voilà.
Est-ce que justement dans la pratique et quand les spectateurs, les visiteurs ont pu déambuler dans le musée, tu as senti que ce rapport allusif ou en tout cas fait pas contraignant, mais de proposition fonctionnait?
Oui, tout à fait, parce qu'à un moment on voit les gens qui ils rentrent dans le musée, à un moment ils se rendent compte de ce qu'il y a au sol, de ce dessin. Donc ils commencent à regarder, à voir où est-ce que ces lignes amènent et ils ont tendance, certains, à suivre ces lignes. Voilà. Qui mène,
Je peux ajouter qu'évidemment, ça implique même des rapports de jeu, puisque les enfants s'amusent évidemment à marcher sur la ligne.
Dessus, oui, sauter par-dessus.
Et à se déplacer. Et puis le niveau supérieur, c'est qu'aussi, évidemment, ces lignes n'ont pas été disposées de n'importe quelle manière. Et Michael a souligné des éléments forts du musée. Je pense que c'est pas anodin que la première ligne démarre de l'œuvre de Daniel Buren, qui est sur l'ensemble des vitrages du musée.
Parce que justement, j'allais en parler. Il y a un artiste qui est là de façon permanente, alors qu'à l'origine, il me semble que ça devait pas être de façon permanente.
C'était
pour l'inauguration. Il y avait une installation comme ça sur la plupart des vitres.
Daniel Buren, à l'ouverture du musée, donc on a invité Daniel Buren pour la première exposition du musée, étant donné qu'il a déjà réalisé une commande publique dans la ville qui s'appelle Rayonnant, qui est une commande publique d'envergure puisqu'elle fait plus de 3 hectares.
Juste à côté de la Cigalière.
Salle de spectacle, la Cigalière, pour les pourtours de la salle de spectacle. Et à l'ouverture du musée en septembre 2006, on a évidemment invité Daniel Buren comme le parrain du musée, si je peux dire, et il a proposé une réalisation sur l'ensemble des vitrages qui s'appelle Rotation, qui est comme toujours un principe très simple avec Daniel Buren et d'une efficacité incroyable, c'est-à-dire qu'il a disposé des couleurs, divisé les vitrages en triangles, dans lequel il fait tourner ces fameuses bandes de 8,7 cm de large. Mmh. Bon, pour Michael, c'est 5 cm. Ici, voilà, c'est toujours l'outil, c'est-à-dire l'outil visuel. Pour Michael, c'est cette bande qui va parcourir le sol dans le musée. Et pour Daniel Buren, sur ses vitrages, c'est ces bandes qui se répètent, qui circulent sur l'ensemble de l'architecture du musée. Donc on peut dire que Michael serait une sorte d'enfant de Daniel Buren,
oui, tout à fait,
entre guillemets. Oui. Mais pourquoi? Parce qu'il y a cette relation directe à l'architecture du lieu, c'est-à-dire proposer une œuvre qui est directement liée à l'espace qui est proposée et qui n'est pas transportable, évidemment. On ne va pas...
Qui est éphémère.
Là, on le voit, ce sont des plasticiens qui vont vers l'architecture, en tout cas vers l'idée de souligner des aspects architecturaux. Mais il y a quand même une tendance forte ces dernières années, c'est de faire entrer les designers et les architectes. Bon, là, il y a le cas avec Cocktail Designer, dans le musée, parce qu'ils produisent aussi des propositions qu'on peut qualifier de plastiques.
Effectivement, il y a une espèce de courant, on va dire, de relation des centres d'art avec aussi des architectes, des designers. L'exemple de Cocktail, c'est assez flagrant puisque ce sont des designers qui sont exposés, non pas dans des biennales de design, mais dans des centres d'art et dans un musée, ici en l'occurrence à Sérignan. Cocktail Designer, en fait, ils ne prétendent pas faire des œuvres d'art, mais faire clairement du design. Et ce qui est proposé dans le musée, je peux dire un mot peut-être sur le parcours qui est proposé dans l'espace. Dès l'entrée, on peut découvrir une œuvre qui s'appelle Icosa Jacques, qui est une... Puisque Cocktail Designer passe leur temps à faire des collaborations. En l'occurrence, l'un des membres du collectif est aussi musicien et a un label de musique électronique. Et dans ce hall du musée, il propose une œuvre qui est une sorte d'ensemble d'étoiles, donc de véritables sculptures, qui essaie d'inventer une nouvelle forme d'écoute pour de la musique électronique. Tout ça, c'est des questions aussi sur notre rapport dans un concert de musique électronique. On peut dire que les gens qui vont assister à un concert sont assez dans une situation un peu étrange à écouter quelqu'un qui est derrière des platines, à tourner des disques.
Derrière un ordinateur.
ou derrière un ordinateur, voilà. Et là, c'est une proposition avec des casques, on tourne autour d'une étoile, une sorte de sculpture. C'est toujours inventer des formes et collaborer. Et là, il présente un label de l'ensemble des morceaux d'un label dans cette pièce à l'entrée du musée. Et ensuite, si on circule, on va à nouveau tomber sur une pièce sonore qui avait été produite pour le Festival d'Avignon, qui s'appelle « Précision sur les vagues ». Et avec le Centre dramatique d'Orléans. C'est sans cesse des collaborations avec le monde du spectacle vivant, les artistes. Voilà. Donc effectivement, les frontières sont très poreuses aujourd'hui entre l'art contemporain, l'architecture et le design.
Je me souviens notamment d'une installation des frères Bouroulec au Palais de Tokyo, me semble-t-il, où c'était comme des grands parasols qui devenaient des cabines d'écoute. On pouvait s'y mettre comme on pourrait être à la plage sous un parasol. Et là, il y avait une douche d'écoute très précise. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que le design, au-delà de l'objet, crée surtout et s'intéresse à la relation qu'il crée entre voilà, l'objet et les pratiques et les usages et la façon dont on peut vivre et la façon dont ça peut modifier justement. Est-ce que ça modifie à l'intérieur du musée, les usages ou les pratiques d'un visiteur?
Déjà, ça amène une dimension supplémentaire, évidemment. C'est qu'on peut toucher les objets. Ils ne sont pas sacralisés comme les œuvres.
Celle de Michael, on peut même les piétiner.
On peut marcher dessus.
Ouais. Donc, effectivement, on peut... À la fois, voilà, il y a ces mondes qui s'entrecroisent, c'est-à-dire le monde de la musique, le monde du design, le monde du théâtre... Et il manque que le monde de la danse, peut-être. Et la littérature est présente, puisque Précision sur les vagues, c'est un texte de Marie Darieux-Sec qui est dit dans cette sorte de kiosque musical. Donc, non, je crois que tout s'interpénètre et qu'aujourd'hui, les artistes ont des propositions communes. Michael Viala, justement, en ce moment, travaille au Théâtre La Vignette sur une création théâtrale en collaboration avec des gens du...
Mais ce n'est pas une première.
Non, hein, ça fait quelques années.
Nous avions reçu, justement...
Marie Lamachère.
Ouais, exactement, Marie, pour évoquer une de ses créations. Et je me rappelle que tu y participais déjà.
Ouais.
Petite pause musicale, c'est le groupe Why, avec un point d'interrogation. Le morceau, c'est Good Friday. L'album Alopecia, c'est des gens qui sont chez Anticone. Et on les retrouve au Rockstore le 29 mars. Cause they want something that their dad don't got. Then you know where you're at. Motoring your ear holes shut in a rush with wet coke. In a Starbucks bathroom with the door closed on booze. I'm left in residue and confused. Like the first time you used soft water. Down on my luck, caught unaware like Houdini when the last fist struck. Sinking in laughing at something sunken in I am. If I'm sinking in laughing at something sunken in I am. If I'm sinking in laughing. It's something sunken in I am. A sucking dick for drink tickets at the free bar at my cousin's bat mitzvah. Cutting the punchline and it ain't no joke. Devoid of all hope, circus mirrors and pot smoke. Picking fights on Dyke Night at Shirley's and Lokes. And snatching purses, doing out in the karaoke and forgetting all the verses. Blowing kisses to disinterested bitches. Playing lead lay in a bad way on Broadway. Sending sexy SMSs to my ex's new man. Cause I can, on the road trying to break an old band. Eating pussy for new fangs, I am, what the hell. Using Purell till my hands bleed and swell. Missing Mel at a Motel 6, I'm unwell. If I'm sinking and laughing at something sunken and I am. If I'm sinking and laughing at something sunken and I am. If I'm sinking and laughing at something sunken and I am. Exciting, touching your handwriting, getting horny by reading it and repeating poor me, intently staring at the picture of your feet on the sticker, at the R. Crumb exhibit, I wonder who's sicker, jerking off in an art museum, John, till my dick hurts, the kind of shit I won't admit to my head shrinker, not even in a whisper to my own little sister, I just stack like a dick and talk shit when I'm with her, art six, I say the Friday before Easter, it's not good, I cried to myself in the pisser, and with you in the front row at the Silver Jew show, and you act like you didn't notice, my fear of the bear that showbiz pizza when I was six was overwhelming and not dissimilar to this.
sinking in, laughing at something sunken in, I am. If I'm sinking in, laughing at something sunken in, I am. If I'm sinking in, laughing at something sunken in, I am. A Jacob hands on tour. I wake up hung over on a hardwood floor from a dream about how you dress hangs off of your little breasts. I'd rather be dead than call this song how I lost your respect. But God bless or get neglected. God bless. See you when the sun sets east. Don't forget me.
Si ça vous a plu, allez courir au ballon, allez courir. Au Rockstore le 29 mars, c'est le groupe Y et ils sont signés chez Anticone. Anticone, c'est les Canadiens, si je ne m'abuse, mon cher Manu qui nous rejoint à la technique et qui et on dit donc au revoir à Bruno. Merci à vous deux, chers techniciens permanents de Divergence FM, tant aimés. Nous sommes toujours sur le plateau de Divergence, Hélène Audifrin, Michael Viala, et nous évoquons l'actualité du musée d'art contemporain régional de Sérignan. Je ne me suis pas trompé cette fois-ci. Et justement, quand on évoque cette actualité, il y a quand même ce sujet qui n'est pas brûlant d'ailleurs, mais qui a dû quand même pas mal remuer les méninges et remuer pas mal l'organisation, c'est la régionalisation du musée. Comment, à un moment donné, ça se pose dans la vie du musée ?
En fait, le projet a environ une année, c'est-à-dire que la municipalité se posait des questions sur l'avenir de cet équipement qui était, on peut évidemment en parler, c'est un équipement de 2500 m² dans une ville de 7000 habitants, puisque peut-être que certains auditeurs ne connaissent pas la ville de Sérignan. C'est une toute petite ville à quelques kilomètres de Béziers, au bord de la Méditerranée, donc... À un moment donné, évidemment, une équipe municipale s'est posée des questions sur l'avenir de ce musée, son budget, ses compétences, etc. Et s'est rapprochée de la région qui a souhaité reprendre ce musée. Donc il est devenu régional au 1er janvier. Je crois que c'est de belles perspectives qui s'annoncent puisque, évidemment, le budget a été conforté, voire augmenté. On entre dans un système de communication plus grand. On travaille en partenariat avec des structures régionales comme le Centre d'art de Sète, dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi le FRAC Languedoc-Roussillon. On va participer à la grande manifestation régionale d'été qui va s'appeler Casanova Forever, où 30 lieux de diffusion de l'art contemporain sont associés durant toute la période estivale. Donc c'est plutôt bien pour ce musée qui a une espèce de localité très resserrée et qui, là, prend des... s'offre à lui des perspectives régionales, voire nationales.
Au-delà du musée, ce qui fait la particularité de Sérignan pour une aussi petite ville, c'est d'avoir développé une politique culturelle aussi audacieuse et à peu près sous tous les angles. Avec être doté d'une salle de spectacle aussi belle et aussi incroyable que la Cigalière, avoir des commandes publiques d'un Daniel Buren, d'avoir des projets qui ont pu, où on a pu annoncer des noms tels que Jean Nouvel. Voilà, c'est assez incroyable. Même des artistes, on avait reçu Patrice Barthès, Rita Tioffi, qui étaient en résidence au long cours, des résidences chorégraphiques dans la ville. Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui, ce dynamisme est toujours de mise ?
Alors, il y a des équipements structurants qui existent. Il y a ce musée qui est désormais régional. Il y a cette salle de spectacle. Il y a une médiathèque aussi qui était la première de l'Hérault à l'époque. Mmh. Donc, effectivement, il y a un ensemble d'équipements assez incroyable pour une petite ville de 7000 habitants. Je pense que c'est un exemple rare en France même. Aujourd'hui, la nouvelle municipalité ne s'est pas désengagée de ses équipements culturels. Ils ont simplement de nouveaux projets qui concernent aussi l'environnement. l'environnement, le développement du tourisme, etc. Et ces équipements-là sont conservés et je crois que la voie de la régionalisation pour le musée, c'était la meilleure à prendre. Et il faudra peut-être trouver des pistes pour continuer à activer la Cigalière qui, effectivement, est un outil magnifique. C'est une salle de 1000 places avec un plateau magnifique pour la danse contemporaine, notamment.
Et un arrière, un fond de scène qui s'ouvre comme ça, tout vitré, qui est assez
incroyable. Qui, pour le coup, est assez unique aussi puisque, normalement, un théâtre, c'est une boîte noire et ici, tout le mur de fond de scène est un rideau vitré, ce qui permet, si un chorégraphe ou un metteur en scène le désire, d'ouvrir l'espace sur l'œuvre de Daniel Buren, qui est une œuvre lumineuse puisqu'elle s'éclaire la nuit par fibre optique, et d'avoir une espèce de décor absolument féerique.
Je me retourne du côté de Michael. Michael, au-delà de cette exposition, est-ce qu'on peut évoquer ton actualité, ta pratique et en même temps une pratique qui est en permanence dans ce jeu de bascule entre bon, quelque chose de, dans le faire et dans le pédagogique aussi, dans la transmission?
Oui, enfin, actuellement j'enseigne à l'école des Beaux-Arts de Montpellier, voilà. Chose qui m'intéresse beaucoup et que je fais depuis quelques années et que je compte continuer à faire. Voilà. Après, en ce moment, je suis surtout sur des projets de scénographie. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, pouvoir travailler dans des espaces, intervenir dans des espaces. Il me semble que l'espace du théâtre me convient tout à fait pour faire ça. Comparé aux espaces d'exposition en général, où c'est très difficile, et de plus en plus, j'ai l'impression de pouvoir intervenir et faire des œuvres in situ. Voilà. On a rarement l'occasion de le faire. Voilà. Et donc actuellement, je suis en résidence au Théâtre de la Vignette avec la compagnie Interstice, voilà, jusqu'au 31 mars. Et donc on prépare une pièce qui est Voicek, voilà, et qui sera jouée aussi au Périscope en septembre ou octobre et
à Nîmes.
Voilà. Et en octobre ou novembre, j'ai pas exactement les dates, à la Vignette aussi. Voilà.
Finalement, les scénographes, depuis quelque temps, sont rentrés dans les musées, les designers aussi. Finalement, les plasticiens sortent des musées pour aller sur les plateaux de théâtre. En fait, c'est juste une histoire de chapelle et de nom qu'il faudrait reconfigurer. Il faudrait même enlever tous ces qualificatifs.
Bah oui, tout à fait. Ouais. Oui.
Vous êtes des créateurs.
Oui, tout à fait. Les créateurs. Ouais.
Même s'ils reconnaissent généralement qu'ils ne font pas tout à fait le même métier, qu'ils ne vivent pas au même rythme, hein, mais c'est clair qu'il y a une convergence facile aujourd'hui.
Bah oui, on a des pratiques multiples en fait. Voilà.
En même temps, ce n'est pas facile, non? Parce que quand on fait de la scénographie, on se met au service.
Ah oui, on est au service d'un projet, de gens, d'un texte, de beaucoup de choses. Quoi. Et ce qui n'est pas la même chose que quand on est seul dans son atelier à continuer son travail qu'on a commencé depuis des années. Complètement autonome. Mais c'est plutôt intéressant, en fait, de changer, d'aller vers autre chose, me semble-t-il.
Hélène Audifrin, Michael Viala, merci beaucoup. Cocktail designer et architecture en ligne, c'est du 14 février au 6 juin au Musée régional d'art contemporain de Sérignan. Si vous n'êtes jamais allé à Sérignan, courez-y, parce que ce musée est vraiment très, très beau.
Ça vaut le coup, c'est les beaux jours, là. Ouais. Sérignan, c'est magnifique.
Exactement.
Il y a une belle plage à proximité. Ouais.
Il y a une belle plage, il y a des belles places. Moi, j'aime beaucoup cette place où il y avait le salon de la bande dessinée. Il y a toujours le festival de bande dessinée ?
Oui, il est maintenu. Mm-hmm. Le week-end Pentecôte, chaque année. Je veux juste ajouter un petit mot sur un festival que l'on va développer aussi, qui va s'appeler Heureuse Coïncidence. Et quand on parle de ces collaborations et de ces rencontres, c'est un festival où il va être question de art, architecture, design et paysage contemporain, et où on va inviter le public à rencontrer des architectes, des artistes et des designers les 28, 29 et 30 mai entre Sérignan et Béziers.
Première fois que Sérignan, enfin le musée, se met à l'heure du festival, enfin dans ce rythme-là.
Oui, l'idée c'est de créer aussi un événement un peu fort dans le Biterrois. On sait que l'activité culturelle, en tout cas autour de la création contemporaine, est assez réduite.
Ah bon ?
Et là, nous souhaitons, avec une association qui s'appelle Lesigno, qui est une fondation d'entreprise, mettre des projets en place ensemble et voilà, créer une espèce de dynamique dans ce Biterrois.
J'aime toujours ce mot. Bon, je peux pas faire la blague à chaque fois, mais bon, c'est pas grave. Chut,
tais-toi, on voilà. Est des auditeurs en tiers de bitère.
Merci beaucoup. On fait une pause musicale avant de retrouver notre cher Antoine Leclerc, Festival d'Itinérance, au téléphone. La pause musicale, c'est Massive Attack. Le morceau, c'est Psyché. C'est le dernier album. Et c'était Massive Attack. Massive Attack, non, qu'on ne retrouve pas à Montpellier, à la différence de tous les autres groupes qu'on a diffusés juste avant. Et vous êtes toujours sur le 93.9 de Divergence FM. C'est Mardi Blabla, un panorama assez large de la culture. Et on se retrouve avec une interview téléphonique de Antoine Leclerc, qui est responsable, directeur du Festival Itinérance à Alès. Est-ce que, Antoine, tu m'entends ?
Oui, Vincent.
Salut. Bonsoir. Salut. Le festival 28e édition du Festival de cinéma d'Alès Itinérance, du 19 au 28 mars. Nous sommes à peu près à mi-parcours. Premier petit bilan comme ça, à chaud. Antoine.
Ça a démarré très très fort avec notamment Tony Gatliff, un bel hommage avec Bernadette Lafont et des belles surprises, une compétition de court-métrage aussi qui a très très bien fonctionné. Et puis là, le cratère est plein ce soir pour une grande soirée Touareg autour de Toumast, un groupe dans la lignée de Tina Riwen, et ça se passe très très bien. On conjugue cinéma et musique ce soir, et on le fera encore d'ici la fin du festival.
Ça, c'est une des particularités aussi du festival. Tous les ans, il y a à un moment donné une envie de fédérer autour d'une double problématique, musique et cinéma.
Oui, oui, on va continuer avec dimanche après-midi, dans le cadre d'un petit focus sur Hitchcock, période britannique. Il y a un de ses films muets, The Lodger, qui sera accompagné par le duo Electro Radio Mental, qu'on a déjà accueilli. Et bah, je crois que ça va être un très très beau moment de collision d'images et de musique.
Ah ouais, Radio Mental, des grands de la radio. On se souvient pour l'anniversaire, il y a quelques mois, des ateliers de création radiophonique. C'était Radio Mental, justement, qui s'était attaqué à toutes les archives de très, très fournies des ateliers de création radiophonique, du temps même de Pierre Schaeffer jusqu'à aujourd'hui, et qui, en live et en direct, avait mixé comme ça devant tout le monde ces archives. Donc j'imagine qu'effectivement, c'est un temps à ne pas manquer. Comment se structure, finalement, quelle est l'ossature du festival pour que les gens comprennent? Parce que j'ai souvent l'impression que les festivals de le cinéma est une forme qui s'adresse à tout le monde et qui est très simple d'accès, et en même temps, les festivals de cinéma, quelquefois, sont assez complexes en termes d'entrée, pour rentrer dedans. Comment tu l'as structuré ?
Nous, on essaie déjà de décomplexer. non, nous, on revendique le fait d'être une auberge très, très, très espagnole avec des entrées multiples, avec le cœur de l'actualité du cinéma, avec une sélection d'avant-première. Par exemple, vendredi soir, Nicolas Clot, réalisateur, viendra avec son comédien Jalil Lesper pour Ligne de front. Donc il y a ça, le court-métrage, on touche à l'actualité du cinéma la plus immédiate. Et puis on a des hommages, des coups de projecteur sur le patrimoine. On a ces collisions entre cinéma et musique, mais l'idée, c'est qu'à chaque fois les choses se renvoient l'une à l'autre, ne s'annihilent pas, mais au contraire s'enrichissent mutuellement, et on essaie de le faire de manière la plus décomplexée possible. C'est vrai que c'est un festival à la fois très populaire avec plus de 40 000 entrées, mais aussi des vraies opportunités de rencontres de cinéastes, de comédiens. Donc nos propositions, elles sont vraiment multiples. Puis il y a un fil conducteur qu'on retrouve chaque année, et là notamment ce sera autour du thème du nomadisme, des nomades, d'où Gatliff. Et ça, c'est un fil conducteur qui revisite l'histoire du cinéma. Mais il y a vraiment beaucoup d'autres choses, et on parlait des hommages. Nous, il y a quelqu'un un duo qui nous est très cher depuis longtemps, dont on passe régulièrement les films. C'est le duo Kervern de Lépine.
Ah oui.
Benoît de Lépine, Gustave Kervern, qu'on va saluer cette année avec un joli petit hommage, puisque leur quatrième long métrage sort et qu'on va présenter une avant-première. C'est Mammouth, avec Depardieu, qui nous rappelle pourquoi ça a été un temps un des plus grands comédiens que la France ait compté. Le film est formidable, ça sera en ouverture d'une nuit de l'identité nationale groenlandaise.
Oui, parce que ce sont les patrons du festival du cinéma groenlandais.
Comment ?
Ce sont les patrons du festival
Donc du coup, il y aura des petites choses. Gustave Kervern sera là. Il y aura un film de Francis Kuntz aussi pour ceux qui connaissent, ils sont nombreux. Donc ça s'annonce, je pense qu'on va enflammer le cratère cette soirée. Puis des petits sketchs qui rappelleront Groland, même si nous on insiste sur le fait que ce sont de vrais auteurs de cinéma qui ont une écriture vraiment passionnante. Et je crois que la rencontre avec Kervern, qui vient de signer d'ailleurs un court-métrage produit par une société montpelliéraine, Brut, le film s'appelle Yabasta, on le présentera. Il y a des petites pépites comme ça qui seront là. Et puis j'oublie pas le documentaire, parce qu'on a aussi, on se souvient d'une participation à la belle opération Raymond Depardon à Langue de Croussillon l'année dernière. Là, on a passé les films de Nicolas Philibert, on passera ceux de la Montpellier-Rennes, le nouveau film de la Montpellier-Rennes, Laure Pradal, bientôt. Et puis on aura aussi, une avant-première exceptionnelle du nouveau film de Michel Gondry, qui a connu une séance très spéciale à Cannes en mai dernier, et qui est une œuvre très rare, fragile, intime de Gondry, qui revient sur sa famille et sur ses attaches familiales en Cévennes. C'est un road movie très étonnant, et ça sera samedi après-midi. Donc on va pas s'ennuyer d'ici la clôture dimanche soir du festival, avec ce que je vous parlais de patrimoine et de films récents. On aura à la fois en clôture dimanche soir l'avant-première du nouveau film de Todd Solondz, cinéaste indépendant américain, et puis on enchaînera pour le plaisir et pour donner rendez-vous l'année suivante avec Les Chaussons Rouges de Michael Powell en version restaurée par Scorsese. Donc ça s'annonce pas mal.
Tu évoquais 40 000 spectateurs comme ça, c'est à l'échelle d'une ville comme Alès, c'est un pari vers le public qui est totalement réussi.
Oui, bah, en tous les cas, pour l'instant, on touche du bois depuis vendredi, et même les petits événements qui ont précédé, des vernissages d'expositions notamment, très belles expos, parce qu'on a aussi ce volet-là, en collaboration avec le musée PAB, des très belles expos autour de Gitans, du travail autour des Gitans de Mathieu Pernaud, une expo sur le parcours de Bernadette Lafont. Depuis ces événements, voilà, tout se passe bien, le public répond présent, et on croise les doigts au risque de se faire insulter par les auditeurs de la radio, pour qu'il ne fasse pas trop beau le week-end prochain.
Bah, je crois que c'est prévu, ouais, effectivement. Dans le programme d'itinérance, on voit un édito, une forme d'édito où il y a quand même un ton moins optimiste dans un sens, c'est-à-dire vous évoquiez voilà, baisse ou stagnation de certaines subventions, difficulté à trouver des partenariats avec le secteur privé en période de crise. Il y a quand même derrière ce grand moment festif et de réjouissance, il ne faut pas oublier que voilà, derrière ce temps fort qui est un festival, il y a toute une organisation, toutes les déboires et toutes les galères pour monter ça. Aujourd'hui, d'avoir signé comme ça un texte un petit peu sombre, c'était quelle volonté derrière ça ?
Le constat, il est assez simple. Comme beaucoup de manifestations culturelles, on sait que le contexte est difficile. Après, c'était un débat interne, on l'a assez vite tranché. Il y a deux manières de faire, hein. Faire l'autruche et faire comme si ces questions n'existaient pas, parce que, je sais pas, ça ne se ferait pas de déballer ces éléments. Et puis, il y a dire, voilà une réalité, on vous en fait part. On a réussi encore à construire une édition dans des conditions en coulisses extrêmement difficiles, côté budget, côté... Voilà. On va pas jouer les pleureuses, c'est pas Zola, mais c'est vrai que voilà, il y a une vraie fragilisation du secteur culturel, de ses employés, quand on réussit à en avoir.
Il y a beaucoup de bénévoles aussi.
Alors que les indicateurs d'audience, de fréquentation, de travail en direction des scolaires, dont j'ai pas parlé, mais on bosse avec 120 établissements scolaires, principalement du Gard et de la Lozère, mais aussi d'autres départements qui sont en résidence. Toutes ces réalités-là, elles sont fragilisées par quelques bouts qu'on les prenne. Et à un moment, je trouve important que les manifestations elles-mêmes, elles posent ces questions sur la table, et elles évoquent ces problématiques avec leurs partenaires, mais aussi avec leur public. Donc on a porté en place publique ces questions. Ça n'empêche pas qu'on fasse encore la fête à l'Est au festival, et on aura quelques occasions de le montrer. Mais voilà, justement, parce qu'on veut que la fête continue les années à venir, et cette remarque est valable pour plein d'autres événements culturels dans le domaine de la musique, des arts plastiques ou autres, parce qu'on souhaite que ça continue et que ce rapport au public et aux œuvres puissent perdurer partout dans les régions. Voilà, il nous a semblé important de le mettre en débat et de ne pas faire l'autruche. Voilà.
Et c'est plutôt très bien. C'est ce qu'on essaie de faire aussi régulièrement à Divergence FM et lors de nos émissions culturelles où on fait pas l'autruche, et c'est la grande chance des radios libres et dites libres. Merci beaucoup Antoine Leclerc. Vous pouvez encore évidemment aller au festival jusqu'au 28 mars. C'est à Alès que ça se passe, et il y a encore de très très belles choses.
C'est une super programmation, ouais. Et encore un grand bravo à cette équipe d'itinérance permanent, occasionnelle, et tous les bénévoles, parce que je sais qu'il y en a un paquet. C'est une vraie mobilisation du territoire, quoi. Ouais, ça vaut le coup. Il y a des gens qui viennent pas seulement du bassin alésien, de tout le Gard, d'une grande partie de la Lozère pour ce festival. Profitez-en parce que il y a Gustave Kerven et que ça vaut le coup d'aller le voir.
Exactement.
Ça sera samedi 22h30.
Samedi 22h30. Merci beaucoup Antoine, à très très bientôt sur nos ondes, en tout cas.
À bientôt. Au revoir.
Le temps commence à passer à une vitesse folle. Une interview avec Mitya Fedotenko, qui est un chorégraphe qui, ce soir et demain soir, est à la Chapelle pour une forme qui s'appelle Sans Frontières. Comme évidemment c'est ce soir, en ce moment même, parce que c'est à 19h, on l'a enregistré avant-hier. Petite interview, ça dure une dizaine de minutes, et on se retrouve juste pour le mot de la fin dans 10 minutes.
Le projet est né au mois de septembre, comme la réponse à la dernière création Dans sa peau, qui était présentée au festival Montpellier Danse. Et Dans sa peau, c'est un projet qui était marqué par, j'appelle ça un signe d'empêchement. Après un grave accident de genou, j'ai vécu 4 ans sous cette signe-là. Donc du coup, j'avais tout de suite envie de, une fois que le genou était mis en place et toutes les opérations avaient bien déroulé, j'ai eu l'intention de faire une pièce qui va tourner cette grosse page. En plus, j'avais dans mon champ de vision des personnalités intéressantes, fortes, comme Hervé Pikarski, qui déjà écrit le texte pour Dans sa peau, et Jonathan Fiennes, avec qui j'ai créé Solo Pluriel en 2007. Je me suis dit, tiens, voilà, il y a un thème qui m'intéresse en ce moment, peut-être c'est mon thème, parce que je suis russe d'origine, et du coup je suis venu en France avec une culture qui est la mienne, disons la culture natale, à laquelle après s'ajoute une autre culture que moi j'appelle la culture appropriée. Dans mon histoire à moi, ce qui est intéressant, qu'il y a 14 ans quand je suis venu en France, c'était une chose. Voilà. Je suis venu avec un tel état d'esprit, avec des œuvres et des artistes qui m'ont marqué en tant qu'artiste, qui ont marqué mon enfance, comme Andrei Tarkovsky ou Marc Chagall, ou si c'est dans la poésie, c'est Anna Akhmatova, Tsvetaeva, Marina Tsvetaeva. À cela, après, ça s'ajoutait à travers les voyages physiques ou mentaux, ça s'ajoutait d'autres notre culture, hein. Qui fait que aujourd'hui tout ça, ça fait partie de mon univers artistique sur lequel je navigue et sur lequel j'ai bâti ma maison, voilà, ma maison artistique. Et je me suis dit que les artistes qui j'ai eu dans le champ de vision, avec qui j'avais envie de partager la scène, Hervé et Jonathan, ils ont probablement ils ont aussi ils ont traversé ces choses-là. Et du coup, voilà, il y a ce projet qui est né, qui s'appelle Sans Frontières, en singulier. Sans Frontières, et qui parle de cette frontière-là, entre la culture natale et culture appropriée. D'ailleurs, pour d'être franc, pour moi, cette frontière-là, elle n'existe pas. C'est peut-être pour ça que j'ai appelé la pièce comme ça, pour travailler sur cette notion de la frontière. Mais pour moi, il n'y a pas d'explication comment Tarkovsky et Lynch peuvent cohabiter dans la même personne. Voilà, il n'y a vraiment rien à voir ensemble, mais pourtant.
Comment on fait coexister ou cohabiter justement tous ces spectres, tous ces référents sur un plateau, sur un même plateau?
Bah, si je dirais que c'est un grand mix, c'est un petit peu mon expérience quotidienne même. C'est-à-dire que je navigue entre la langue russe, français, deux fois allemand, deux fois anglais, et sans savoir à quel moment je passe à l'un ou à l'autre. Du coup, sur plateau, il y a le texte d'Hervé, il y a d'autres textes de Jethro Tull, par exemple, il y a le chant. Il y a le chant en français, en russe, il y a le texte en allemand, en anglais. Jonathan, qui travaille sur les vinyles, sur le tourne-disque, c'est carrément son sujet à lui. C'est-à-dire toutes les DJ, d'ailleurs, il ne veut pas qu'on appelle DJ, parce que c'est un guitariste et le batteur. À un moment donné, il a eu un accident de bras et du coup, il est passé sur le vinyle et maintenant, il considère ça comme un instrument à part entière. Et du coup, il fait cette mix musical qui va au-delà d'un DJ tout court. D'ailleurs, Jonathan, il était dans Découverte Printemps de Bourges 2009, juste après qu'on avait travaillé sur Solo Pluriel un peu plus. Donc lui, il a fait... On s'est connus en 2005. Lui a fait un parcours assez étonnant avec Rue de Awakening, que vous connaissez peut-être, que le public montpelliérain aussi connaît. Et puis, il a fait un parcours tout seul, que j'apprécie beaucoup. Donc du coup, Sans Frontières, c'est un... Moi, je le formule comme ça. Ce n'est plus une performance. Pour moi, c'est une pièce à part entière. Une pièce rencontre entre les artistes de trois disciplines différentes. Musique, écriture et la danse. Où on parle, bien sûr, d'une bonne partie autobiographique de chacun. Et en même temps, on brasse aussi des questions qui tourmentent un peu la société contemporaine.
Tu as aussi l'ambition de dépasser certaines frontières géographiques et de ne pas te restreindre à Montpellier et d'aller dans d'autres pays.
Enfin, en tout cas, ce n'était pas prémédité d'avoir la suite. J'ai pensé que ça sera simplement une pièce, c'est tout. Et après, une fois qu'on a démarré, j'ai eu un déclic que j'ai aussi d'autres artistes avec qui j'aimerais bien partager le plateau et qui peuvent parfaitement répondre au propos, à ce propos-là. Donc du coup, en étant allé en Russie cet hiver, je suis revenu sur le vieux contact, sur les artistes qui m'intéressent énormément. Et donc j'ai eu l'idée d'avoir la suite. Sans Frontières, ça va s'appeler en russe Bez Granitsy. Et ça sera rencontre entre la scénographie, la danse et la musique. Avec deux musiciens phares de la scène moscovite, Alexei Borisov et Olga Nosova. Et nous, on va faire une pièce encore sur un temps plus court, sur une semaine, dans un lieu qui s'appelle Dom, le 29 mai. Et après, il aura, je pense maintenant, il aura la suite. Je ne vais pas dévoiler tout. Mais j'ai d'autres projets pour la suite de Sans Frontières, dans d'autres pays.
Voilà, Mitya Felovenko, c'est ce soir, c'est en ce moment, mais c'est aussi demain soir, hein, à 19h à La Chapelle. Donc vous pouvez encore y courir.
La Chapelle, cité Gély, voilà, un lieu aux mains de Tien Schwartz, assez repéré.
Et on va se quitter parce qu'on a nos camarades cacassiens qui sont venus.
Exactement, pour la première fois, ils sont à l'heure, alors on est un petit peu étonnés.
On va leur céder le micro, on va se séparer avec une toute pause musicale. Hein,
oui,
même,
mais c'est un petit clin d'œil à nos émissions qui viennent de se terminer la semaine dernière. C'était notre série avec les Marvin et c'est pour annoncer la double sortie d'album Marvin Copson avec une soirée à laquelle il va falloir que vous assistiez. C'est le 26 mars.
Vendredi à 8h, c'est gratuit.
Et
si vous venez à 8h, il y a un petit morito pour ceux qui arrivent les premiers. J'ai bien retenu ma leçon. À mardi prochain,
on se quitte avec les Copson mardi prochain avec une émission spéciale autour de Volontaires. Volontaires, c'est un dispositif avec le festival
de
hybride.
De pratique amateur de festival.
Exactement.
Hybride, tout à fait.
Et après, on attaque une longue série de 4 émissions avec Lewis Trondheim et Guy Delisle. C'est parti, mon kiki.